et enfanta Caïn. Elle dit, « J'ai acquis un homme de par l'Éternel. » Et l'enfanta encore son frère, Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité, et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité, et pourquoi ton visage est-il abattu ? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Cependant, Caïn adressa la parole à son frère, Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas, suis-je moi le gardien de mon frère ?» Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait ? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. » Caïn dit à l'Éternel, « Mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera me tuera. » L'Éternel lui dit, « Si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé cette fois. » Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tue pas. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod, à l'Orient d'Éden. Voilà, nous avons donc ici le récit de la conception des deux premiers hommes qui ont été engendrés sur la terre. Et ce récit est immédiatement suivi par celui de la tragédie qui a suivi, puisque une fois ces deux hommes devenus adultes, Caïn, le premier fils d'Adam et d'Ève, va devenir le premier meurtrier de l'histoire de l'humanité, puisqu'il deviendra le meurtrier de son propre frère, Abel. Ironiquement, il semblerait que Adam et Ève attendaient beaucoup de Caïn et peu d'Abel, puisque le nom de Caïn signifie acquisition ou encore gain, tandis que le nom d'Abel signifie la vapeur ou encore la vanité. C'est tout l'inverse qui s'est produit. Voyons ici que très souvent, les pensées de l'homme sont fort éloignées de celles de Dieu. Quoi qu'il en soit, certainement, l'épisode de ce qui s'est produit entre Caïn et Abel comporte-t-il une dimension personnelle qu'il nous est difficile de saisir? Il y a eu des relations entre ces deux frères. Je ne sais pas quel est le prétexte qui a été invoqué par Caïn pour perpétrer son meurtre. L'Écriture dit quelque part que les querelles entre frères sont comme les verrous d'un palais, sont impénétrables. Quoi qu'il en soit, la Bible nous révèle le fond des choses, la véritable motivation qui a conduit Caïn à perpétrer le meurtre de son frère. Parfois, avec la Bible, Dieu nous enseigne de la manière suivante. Il nous amène par des récits comme ceux-ci qui sont, on pourrait dire, elliptiques, c'est-à-dire qu'il y a très peu d'informations et il faut aller glaner ici et là, ailleurs dans l'Écriture, d'autres éléments qui nous permettent de saisir parfaitement ce que Dieu veut nous communiquer. Alors, il y a des éléments qui se trouvent dans le récit que nous avons lu, il y en a d'autres qui se trouvent à d'autres endroits de la Bible, puis il y a des choses encore que Dieu n'a pas jugé bon de nous révéler, quoi qu'il en soit. Ce récit, cette histoire de deux frères, a aujourd'hui encore quelque chose d'extrêmement important à nous enseigner, qui que nous soyons. Caïn et Abel grandissent et ils vont apporter chacun une offrande. Caïn est devenu laboureur, Abel est devenu berger. Et lorsqu'il nous est parlé de l'offrande que Caïn et Abel apportent à Dieu, je pense qu'il nous faut comprendre en réalité qu'il s'agissait de toute une série d'offrandes, puisque dans l'Épître aux Hébreux, bien plus tard, nous apprenons que Dieu approuvait les offrandes d'Abel. Il s'agissait donc très certainement d'une pratique commune dans la vie de cet homme. Alors qu'avait compris Abel ? Pourquoi ce fils d'Adam et Ève a-t-il amené un sacrifice sanglant pour se présenter devant Dieu, l'offrande d'un des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse ? Il est évident que Abel n'ignorait pas ce qui s'était passé quelque temps auparavant dans le jardin d'Éden, ce qui était arrivé à ses parents, Adam et Ève. Abel n'ignorait pas de quelle manière Dieu, qui avait formé le premier homme de la poussière de la terre, avait placé Adam et Ève au milieu de ce jardin dans lequel il ne manquait de rien et dans lequel nos premiers parents bénéficiaient d'une communion remarquable, parfaite, avec leur Créateur. De quelle manière Ève, tentée par le diable, l'adversaire de notre âme, qui de manière mystérieuse s'est adressée à elle à travers le serpent, voyez, a succombé à la tentation, a transgressé le commandement express de Dieu, de quelle manière Adam avait été entraîné avec elle dans la même transgression. C'est impossible qu'Abel l'ignore. Et on ne peut pas imaginer que Adam et Ève n'en aient pas abondamment parlé à leurs enfants, avec larmes. Quelles larmes ! Ce paradis perdu, la communion du Créateur perdue, la mort qui est entrée dans l'âme d'Adam et d'Ève. Abel, comme Caïn, nous y reviendrons, avait donc entendu parler par la bouche de leurs propres parents, de ce drame de la chute dans le jardin d'Éden. Abel savait aussi, il l'avait appris par la bouche de ses parents, que Dieu n'avait pas laissé pour autant l'homme sans espoir. Dieu, dès le jardin d'Éden, avait laissé une promesse qu'on avait compris au juste Adam et Ève, la promesse que de la postérité de la femme viendrait un élément de salut. Dieu avait révélé à Ève, en réalité, c'est curieux, Dieu l'avait fait en s'adressant au serpent, qu'il mettrait inimitié entre la postérité du serpent et la postérité de la femme. Dieu révélait ainsi que, de tout temps, les hommes et les femmes qui s'attacheraient à Dieu subirait la persécution, l'outrage, la violence parfois d'un monde qui rejette Dieu et ses valeurs morales, ses spirituelles. Mais ce que Dieu révélait avant tout, c'est que de cette postérité, bien, naîtrait celui que Dieu enverrait lui-même pour sauver ceux et celles qui croiraient en lui. Jésus-Christ, don merveilleux de Dieu aux hommes, le sauveur du monde. Gloire d'Israël, son peuple, lumière pourrait éclairer les nations. Il avait compris, Abel, en tout cas qu'il y avait un espoir. Il était encore possible de revenir à Dieu, de s'approcher de lui. Et puis, on peut ajouter que, de manière assez mystérieuse, Adam et Ève, qui avaient connu leur nudité, avaient été revêtus par Dieu de vêtements de peau. Or, ceci assurément provenait de la mort d'un animal. Vous voyez, Dieu n'a pas créé des peaux inanimées, mais il avait créé des animaux. Et dans l'histoire des patriarches, nous voyons que très tôt, la pratique du sacrifice d'animal était répandue. Nous la trouvons chez Noé, nous la trouvons chez Job, qui était l'un des premiers patriarches de l'Écriture. Nous la trouvons chez Abraham et nous la trouvons chez Jéthro, le beau-père de Moïse, ceci avant que la loi mosaïque n'a été promulguée. Puis il nous a dit que c'est par la foi qu'Abel a offert son sacrifice, un sacrifice plus excellent que celui de son frère Caïn, et que c'est par elle, par la foi, qu'il a été déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Or, par la foi, ça signifie que Abel avait entendu des choses qui avaient produit en lui une conviction. Vous voyez, cette pratique de l'offrande d'animaux, du sacrifice sanglant, n'est pas le produit de l'imagination des hommes. On ne peut pas concevoir que les patriarches soient mis subitement à imaginer que c'est par cette manière que l'on pouvait s'approcher de Dieu. Non, non, à un point donné, Dieu avait révélé, en tout cas, sa volonté relativement au sacrifice d'animaux et révélé que, de cette manière, il était possible de s'approcher de lui. Or, Abel, pour ce qui le concerne, nous l'avons dit, avait entendu parler du drame, de la chute, de la perte, de la communion avec le Créateur. Et il l'avait compris pour lui-même. Voyez, pourquoi ? Comment peut-on l'affirmer ? L'Écriture affirme, voyez, que l'œuvre de la loi de Dieu, ses commandements parfaits, sa justice, est inscrite là dans notre conscience. Voyez, et Abel, ayant entendu de ses parents, connaissant cette possibilité de revenir à Dieu, voyant qu'il était possible et souhaitable de s'approcher de Dieu, nécessaire pour se faire d'offrir un sacrifice, a décidé de le faire en offrant l'un des premiers-nés de son troupeau. Vous me direz, mais oui, mais il était berger. Avez-vous réfléchi au fait même qu'Abel soit berger ? Vous voyez, il y a un verset dans l'Écriture qui nous amène plus tard dans l'histoire de l'humanité à l'issue du déluge et qui nous révèle qu'après le déluge, Dieu, en parlant à Noé et aux siens, va déclarer sa volonté que l'homme, comme de toute herbe verte, à partir de ce moment-là, se nourrisse de la chair des animaux. Alors pourquoi Abel était-il berger ? Quoi lui servait-il de paître ce troupeau ? Certains pensent qu'en réalité, l'homme avait déjà consommé de la chair animale avant ce commandement express de Dieu, c'est peu probable. Mais qu'importe. D'autres pensent qu'Abel était berger parce que le fait d'élever ses troupeaux permettait à Abel et à sa famille d'en boire le lait. Possible. D'autres pensent encore que les troupeaux servaient avant tout à recueillir la laine qui permettait de confectionner des vêtements chauds. Quoi qu'il en soit, imaginons-nous Abel, ce berger, qui était habitué à garder les troupeaux, c'était les bêtes qui étaient sous sa responsabilité. Imaginons-nous, Abel, mettre à mort l'un des premiers-nés de son troupeau avec un couteau de pierre, avant que Tubal-Caïn ne commence à forger des instruments de fer. Sans doute, c'est le sang d'une victime innocente qui est répandu. Cet animal auquel il a consacré tous ses soins. Vous voyez, comment était-il possible qu'Abel ne prenne pas conscience que c'était pour lui, pour son péché. À travers ce sang qui coulait, il y avait la prise de conscience de la gravité du mal. Le salaire du péché, dit la Bible, c'est la mort. Et c'est ce qu'Abel comprenait à chaque fois qu'il offrait à Dieu une victime. Avait-il compris, Abel, que cette victime innocente était dans le dessein de Dieu qui avait révélé la nécessité de l'offrande d'un sacrifice sanglant ? Avait-il compris que ce sacrifice préfigurait, annonçait la venue du sacrifice véritable, Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ? Jésus par lequel il nous est révélé dans l'Écriture que en lui et par la foi en lui, il est possible de nous approcher de Dieu avec confiance. Que quiconque croit en son nom reçoit par lui le pardon des péchés. que le sang de Jésus-Christ purifie toute conscience honnête de ses fautes et restaure notre communion perdue avec le Père. Est-ce qu'Abel avait été jusqu'à comprendre cela? Est-ce qu'il avait été jusque-là? Bien difficile de l'affirmer. Ce qui est certain, c'est que toute sa vie était consacrée. Le fait qu'il avait placé sa foi dans cette possibilité de venir à Dieu, d'offrir un sacrifice, montre que Abel avait consacré toute sa vie à Dieu. Il avait soumis sa volonté à celle de Dieu. Il avait trouvé, retrouvé en Dieu un sauveur extraordinaire, son Père céleste. La communion avec son Créateur était rétablie. C'est toute sa vie qui portait la marque de cette foi. Et c'est pourquoi il nous est dit que Dieu a porté un regard favorable sur Abel, sur sa personne, sur ce qu'il était, sur la manière dont il vivait et sur son offrande. Parce qu'à cause de ce qu'il était, c'est dans la foi qu'Abel a offert ce sacrifice à Dieu. À ce point, chers amis, arrêtons-nous et posons-nous la question. Avons-nous vécu une expérience semblable à celle d'Abel ? Avons-nous compris la nécessité de nous arrêter, de considérer la question de notre relation avec Dieu, la question de notre péché, la nécessité de mettre notre vie en règle avec notre Créateur, de revenir à Dieu pour régler avec lui la question de nos fautes, en obtenir le pardon et trouver auprès de lui un Père céleste. Si tel est le cas, la bénédiction de Dieu repose sur nous, car nous nous approchons de lui non pas sur la base d'un sacrifice animal, mais sur un sacrifice bien plus grand, parfaitement efficace, celui de Jésus-Christ, qui a livré sa vie en rançon pour nos péchés et par lequel nous pouvons nous approcher de lui, du Père, dans la foi et par la foi. Voilà pour Abel. Puis il y a Caïn. Avez-vous noté que bien des choses nous sont dites à propos de Caïn dans ce récit de la Genèse, alors que très peu de choses nous sont dites d'Abel? Pourquoi? Et parce que, nous l'avons dit, il faut aller chercher dans la Bible, parfois comme dans un puzzle, pour retrouver les pièces de ce qui constitue la vie et la démarche d'Abel. Et la parole de Dieu est pleine de la révélation de Jésus-Christ et de son sacrifice, du salut que Dieu nous offre. Mais aussi, parce que pour que nous vivions l'expérience d'Abel, que nous nous trouvions comme Abel dans une relation bénie de restauration, de relèvement devant Dieu, il nous faut préalablement prendre conscience que nous nous trouvons par nature et par notre responsabilité dans la position de Caïn. Si l'on s'arrêtait au seul récit de la Genèse, on pourrait en effet avoir du mal à comprendre. Pourquoi Dieu porte un regard favorable sur Abel et sur son sacrifice, et pourquoi il ne porte pas un regard favorable sur Caïn et sur son sacrifice? Mais encore une fois, en méditant sur ce récit et sur d'autres passages de la Bible, nous nous rendons compte que, bien sûr, il n'y a rien en Dieu d'injuste ou d'arbitraire. Caïn, comme Abel, avait entendu de ses parents le récit bouleversant de la chute, de ce qui avait été perdu, de ce qui devait être recouvré pour trouver le salut. Puis notez que Caïn n'est pas un athée. Caïn sait parfaitement qu'il y a un Dieu. Il est conscient de son existence. Il est conscient de la nécessité même de trouver sa faveur. Caïn n'ignore pas l'existence et la puissance de Dieu. D'ailleurs, nous remarquons qu'à la fin du récit, lorsque Dieu adresse la parole à Caïn, il n'en est pas le moins du monde étonné. Il voudrait que Dieu le bénisse. Il veut trouver la faveur de Dieu, Caïn. Il va amener devant Dieu son offrande. Alors, certains insistent sur le fait que Caïn aurait été rejeté par Dieu parce qu'il n'apporte pas un sacrifice sanglant, mais seulement les fruits de la terre. pense pas qu'il y ait quoi que ce soit de mal dans le fait que Caïn ait apporté les fruits de la terre. Car pour ceux qui connaissent la parole de Dieu, dans l'Écriture, nous voyons que sous la loi mosaïque, par exemple, Dieu avait demandé à ce qu'on lui apporte, par exemple, des gâteaux faits avec de la farine, fruits de la terre, le blé. Non, le problème, c'est que Caïn, lui, voudrait être reçu sans soumettre sa volonté à celle de Dieu. Caïn, lui, n'a pas reçu ce témoignage concernant la présence du mal dans sa vie. Oh, il l'a entendu de la bouche d'Adam et d'Ève, ses parents. Il a vu le changement profond qui s'était opéré dans la vie de son frère Abel. Et précisément, il voit que dans la démarche de son frère qui apporte ce sacrifice sanglant dans lequel Abel reconnaît la nécessité pour lui-même de trouver la mort ou d'en être délivré par un acte de la grâce de Dieu. Caïn voit en son frère ce changement profond. Caïn sait que Dieu approuve les offrandes de son frère. D'une manière ou d'une autre, Dieu l'a rendu manifeste. Et c'est cela qui irrite Caïn. C'est pour cette raison que son visage est abattu. Voyez, l'Évangile, l'Écriture, la proclamation de la parole de Dieu nous touche lorsque nous sommes au plus profond de nous. Lorsque vous parlez à quelqu'un, peut-être en désaccord avec notre interlocuteur sur bien des choses. Parler à quelqu'un de vos goûts musicaux ne correspondent pas aux siens. Le désaccord peut être passager, mais pas de quoi provoquer une querelle. Parler à quelqu'un de vos opinions ou de vos convictions politiques, certainement, et dans bien des cas, vous provoquerez ici une réaction beaucoup plus vive, parce que vous touchez à ce que la personne pense au plus profond d'elle-même, ce dont elle est convaincue, certaines de ses valeurs. Et lorsque l'Évangile, lorsque Dieu nous parle, qu'il touche à ce que nous sommes au plus profond de notre âme, de notre esprit. Caïn, en voyant vivre Abel et en voyant l'approbation de Dieu sur sa vie, sur sa foi, sur ses offrandes, prenait conscience au fond de lui que sa vie déplaisait à Dieu. Comment dire à quelqu'un ? L'Évangile vient-il à moi pour me dire que ma vie n'est pas bonne ? Qu'en moi, il y a quelque chose de fondamentalement méchant, mauvais, qui cloche avec ma vie ? Quelque chose que Dieu réprouve ? Oui. L'Évangile nous révèle que, qui que nous soyons, il n'y a pas un juste, pas même un seul. Qu'il y a ce besoin profond et impérieux pour nous de trouver une réconciliation avec Dieu. C'est ce que Caïn n'a pas voulu entendre, c'est ce que Caïn ne veut pas recevoir. C'est Jean qui, des siècles plus tard, confirmera et révélera ce fait en nous disant ceci. Pourquoi Caïn tua-t-il Abel ? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Caïn était du malin. Alors, bien sûr, Dieu a parlé à Caïn. Dieu a essayé de lui adresser cet appel. Vous voyez, en lui disant, mais pourquoi ton visage est-il abattu ? Pourquoi ton visage est-il abattu ? Nous l'avons dit, Caïn n'est pas un athée. En fait, il veut vivre comme il veut. Il veut faire sa volonté et malgré cela, il veut que Dieu le bénisse. Chers amis, ici encore, arrêtons-nous quelques secondes. Est-ce votre cas ? Votre vie ressemble-t-elle en cela à celle de Caïn ? Est-ce la conception que vous vous faites de Dieu ? Dieu parlera à Caïn, Caïn rejettera l'appel de Dieu, l'hésitation, la colère vont grandir jusqu'à ce que cette colère entretenue, un jour dans les champs, il se jette sur son frère et le tue. C'est le principe de toute persécution, de tout temps. Des hommes et des femmes qui n'ont pas voulu recevoir Dieu dans leur vie, voyant vivre les chrétiens, leur porte une rancune pour la raison que nous avons énoncée, la conduite des chrétiens dénonce ce qu'ils sont. Et puis tuer un chrétien, c'est quelque part pour eux une façon de mettre Dieu à mort, comme si les pécheurs que nous étions pouvions régler le problème du péché en faisant taire la voix de notre conscience, en faisant taire la voix de Dieu. Mais qui peut faire taire la voix de Dieu? Il est notre Créateur. C'est lui qui toujours aura le dernier mot. C'est lui qui toujours rendra un jugement juste. Et voilà pourquoi il nous appelle aujourd'hui à régler notre vie, la mettre en règle avec lui. Caïn, suite à son méfait perpétré, va bénéficier encore de la clémence de Dieu qui lui parle, qui le protège, qui met sur lui un signe pour que sa vie ne soit pas ôtée. Mais quelle existence terrible! Il part lui-même, il s'éloigne loin de Dieu, dans le pays de Nod, ça veut dire le pays de ceux qui errent, le pays de l'errance. Voyez, il y a une errance éternelle, hélas, pour ceux qui s'obstinent à rejeter Dieu. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Il y a un enfer, c'est le lieu où Dieu n'est pas, où Dieu n'est plus. Chers amis, par l'Évangile, par ce récit de Caïn et d'Abel, Dieu vous appelle. Dieu vous appelle à quitter la voie de Caïn, si vous vous y trouvez. Et comme Dieu a pu parler à Caïn en lui disant « Si tu agis bien, tu relèveras ton visage. » Dieu nous parle aujourd'hui par Jésus-Christ. Et il met devant nous, nous l'avons dit, un sacrifice bien plus précieux, bien plus efficace que le sacrifice animal qu'Abel a reçu, qu'Abel a offert et qui pourtant a été agréé parce qu'il a été offert sur le principe d'une foi authentique. Mais aujourd'hui, Dieu met devant nous par l'Évangile le sacrifice parfait de Jésus-Christ. Il nous tend la main. Il nous invite à la foi. Celui qui croit en Jésus-Christ reçoit le pardon de tous ses péchés. Sa volonté, notre volonté, peut se soumettre joyeusement à celle de celui qui nous aime, qui désire nous sauver, devenir le berger de notre vie. Prions quelques instants, si vous le souhaitez maintenant. Merci, notre bon Père Céleste, de ce que tu nous aimes, bien plus encore de ce que nous pouvons dire ou exprimer. Te prions pour que tu nous gardes, comme Caïn, de persévérer dans l'obstination, la pratique de notre propre volonté. Tu nous révèles, Seigneur, que c'est par Jésus-Christ et par lui seul qu'il nous est possible de venir à toi pour obtenir la paix avec toi. Être nous aussi, comme Abel a été déclaré juste, justifié par la foi. Oui, nous confessons avec ta parole que, justifié par la foi, nous avons la paix avec toi, par le Seigneur Jésus-Christ. Oh, s'il y avait, Père Céleste, quelqu'un cet après-midi qui est encore dans les liens de son péché, dans les liens de son abattement, de son irritation, te prions pour que par ta bonne parole, par ton bon esprit, tu convainques son cœur et son âme et le conduises jusqu'à Jésus-Christ, qui ne met dehors personne de tous ceux qui viennent à lui, que cet après-midi soit ainsi un après-midi de salut, un après-midi de grâce, un après-midi de relèvement, dans lequel tu donnes l'assurance de la vie éternelle et dans lequel tu confirmes ta parole dans ta bonté. Amen.